Bonjour tout le monde.
Bonjour.
On raccourcit un petit peu les choses ce matin parce qu'on fait, en fait, beaucoup de choses. Donc, déjà, on a eu ce témoignage des jeunes. Et tu as dit peut-être d'autres jeunes donneront leur témoignage plus tard.
Plus tard.
Ça serait bien. OK. Et c'est vrai qu'on se donne les 2 semaines et vraiment on est en communauté.
Presque comme une église. Comme une église devrait être.
Et donc, les autres 12 mois, les autres 11 mois et 2 semaines, eh bien, on a la fraternité quand on vient le dimanche. Et peut-être pour quelques-uns, quand ils viennent à la réunion de prière, ou l'étude biblique, ou la réunion des hommes, ou autre réunion qui pourrait avoir lieu pendant la semaine ou pendant le mois. Donc, faut pas penser que les bons moments chrétiens se trouvent uniquement au camp. Hein? C'est notre vie chrétienne. Okay? Pour l'instant, on va ouvrir nos Bibles dans Psaume 23. Psaume 23, que je vais lire entièrement, et puis on va voir à travers. Par la suite, on va partager le repas du Seigneur. Donc, il y a au moins Jeff, et là, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous par Zoom, mais pour ceux qui sont avec nous par Zoom, donc, on a envoyé, vous avez certainement eu le message cette semaine de préparer le pain et le jus pour le repas du Seigneur à la maison pour ceux qui sont par Zoom. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, et on va corriger la traduction ici, dont les nouvelles traductions sont plus correctes, jusqu'à l'éternité. Donc, ce n'est pas jusqu'à la fin de ma vie, parce que ça n'a rien à voir avec la fin de ma vie, c'est à jamais et pour toujours. Okay? Donc, on va prier et on va parler de ce psaume. Prions. Père Céleste, merci que tu nous as donné vraiment ce beau psaume. Le 23, tu es notre berger et tu pourvois pour nous dans toutes les choses et c'est à nous de nous confier à toi et de te suivre. Donc Seigneur, que tu parles à chacun d'entre nous par ce texte et par les versets qu'on verra à travers et pendant le repas du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Donc on a dans le verset 1 l'Éternel. L'Éternel, bien sûr, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu, la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, dont le Fils est devenu un homme pour payer et enlever tous nos péchés. Et puis, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, il est venu habiter dans chaque croyant pour nous, déjà pour nous aider, mais aussi pour nous assurer notre salut. Ce n'est pas parce que je me sens bien que mon salut est assuré, mais c'est parce que Dieu l'a assuré. Il a mis le sceau de son Saint-Esprit, qui est la marque éternelle sur ma personne, que je fais partie des enfants de Dieu. Et c'est vrai pour tout croyant. Et donc, il dit, l'Éternel est mon berger. Donc, on peut retenir que ce berger, le bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On va lire dans Hébreux chapitre 13 tout à l'heure, et il va dire que le grand berger, c'est le Père. Le Père du Seigneur Jésus-Christ, c'est le berger. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est le berger. Donc le Saint-Esprit qui nous dirige aussi, c'est le berger. Mais Jésus a dit, je suis le bon berger. Okay? Donc le bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais lire dans les psaumes, psaume 95. On va le lire en deux parties. Donc premièrement, on va lire verset 1 à 7, mais juste la première partie de verset 7. Psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est-à-dire, les autres dieux ne sont rien. Donc, il n'y a qu'un Dieu, il est là-haut. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. Donc, tout appartient à Dieu, même si tu nous le prêtes. Hein? Mais tout appartient à Dieu. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, quoi, est à lui. La terre est à lui. C'est lui qui l'a faite, mais ses mains l'ont formée. Venez, verset 6. Prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. C'est pour ça que j'ai choisi cela. Il est notre berger. Le troupeau que sa main conduit. Et vous voyez à trois points là. Ça veut dire que la pensée va changer. Okay? Donc on s'arrête là. On garde quelque chose dans la page parce qu'on va revenir à psaume 95. Mais pour l'instant, on retourne en psaume 23. L'Éternel. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça, c'est rassurant. OK? Mais on comprend bien quand il dit ne manque de rien, il veut dire ne manquera de rien de nécessaire. Hein? On ne manque pas des choses qui sont nécessaires. Et puis, il y a une condition qui est sous-entendue, c'est que je ne manquerai de rien pourvu. Pourvu que les brebis ou le brebis reste avec le berger. Quand on est avec le berger, on ne manque de rien. Et c'est ça le point. Quand le brebis est avec le berger pourvoit pour tous ses besoins. Maintenant, je veux finir le psaume 95. À partir de ces trois points, là, au verset 7. Oh! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, ça veut dire, c'est dommage que vous n'écoutez pas. C'est ça que le verset dit. C'est dommage. Vous devriez. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Non, d'ailleurs, vous allez, ça c'est en Hébreux chapitre 3 que ces versets sont répétés. Hein? Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, votre cœur, comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Mais je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, quelle contradiction, pour le dire comme ça, avec la première partie de ce psaume. C'est l'idée que les brebis qui sont avec le berger sont protégées, sont nourries, sont bien soignées. Mais les brebis qui s'égarent, qui se partent ailleurs, qui vont grimper une colline et tomber par une falaise, eh bien, ce n'est pas la même situation. Trop souvent,
il y a un ou plusieurs brebis qui s'égarent.
Et la Bible nous dépeint tous comme les brebis qui s'égarent. Chacun suit son propre chemin. Donc, on voit dans le psaume, c'est premièrement que Dieu s'est donné un berger pour Israël, la nation d'Israël. Et pourtant, la nation d'Israël était toujours en rébellion contre le berger. Donc, on va regarder dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9 et le verset 36. Donc, c'est après que Jésus a eu un grand ministère en parcourant les villes, etc. Verset 36, Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il, donc c'est Jésus, fut ému de compassion pour elle, parce que elle, la foule, était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc, le point ici, c'est que quand Jésus a vu les Israélites, les individus, il les a vus comme dispersés et comme des brebis perdus. La nation était perdue, mais les individus étaient perdus. Et c'est vrai qu'à cause de nos péchés, tous sont perdus. Tous sont dispersés, éloignés de Dieu. On a tous besoin du salut. Alors, je vais mettre un papier pour ne pas perdre Matthieu, parce que je vais revenir là. Donc, notre difficulté aujourd'hui en France, c'est qu'il y a, comme en Israël de l'époque, eh bien, aujourd'hui, il y a beaucoup de brebis qui sont dispersés, qui sont isolés, qui sont éloignés. Et je ne parle pas en ce moment des raisons légitimes pour être isolé ou isolé. Par exemple, à cause de la santé, à cause du travail, ça arrive qu'il y a les oppositions domestiques qui ne permettent pas à l'un ou l'autre des époux de venir à l'église. Il y a des raisons que les chrétiens soient isolés. Mais au-delà de ça, et c'est ça qui est triste, c'est que bien que Jésus a conçu le christianisme comme une bergerie, comme un troupeau, comme une famille, comme une communion, eh bien, il y a beaucoup de chrétiens qui s'écartent des autres chrétiens. Ils vivent en isolement contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas être avec d'autres chrétiens, ce qui est des fois le cas, mais c'est qu'ils ne veulent pas être avec d'autres chrétiens. Des fois, c'est par ignorance. Et je pense, pour ces chrétiens-là, s'ils lisent la Bible, s'ils lisent le Nouveau Testament, ils vont arriver à comprendre que Dieu veut que les chrétiens soient ensemble. Aussi, ça peut être par manque de conviction. Oui, je crois en Jésus, mais vous savez, manque de conviction, ou même manque de priorité. On a toute la semaine, mais toujours dimanche matin, on organise quelque chose d'autre. On a vu ça dans le passé. On n'a pas vu ça ici, mais dans le passé, on a vu ça. Manque de priorité. Bon, ça, c'est des choses dommages, n'est-ce pas? Mais après, il y a d'autres choses qui sont pires. Il y a mauvaise volonté. Il y a égoïsme. Il y a l'orgueil. Je connais mieux comment vivre ma vie humaine que Jésus connaît. Et il y a aussi, trop souvent, il y a un problème du péché. Les raisons que les chrétiens s'écartent des autres chrétiens. En tout cas, quand on a lu ce verset dans Matthieu chapitre 9, on voit que Jésus n'est pas content de voir que les brebis sont dispersées. Okay? Et puis, une autre difficulté, c'est que quand on est isolé, quoi que soit la raison qu'on est toute seule dans son christianisme, eh bien, isolées et dispersées, les brebis peuvent bien plus facilement tomber victimes des loups ravisseurs. Donc, je voudrais lire en Matthieu chapitre 7. On ne va pas lire tous les versets, mais on va lire versets 15, 21 et 24. Matthieu chapitre 7, verset 15. Jésus le dit bien. Il faut prêter attention à ce que Jésus dit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Aussi, au verset 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un se dit pasteur ou prêtre ou je ne sais pas quoi, prophète, qu'il est un vrai, un véritable serviteur de Dieu. Il peut faire, en vérité être un loup ravisseur, un faux docteur. Et puis au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, et là il dit de ce qui est enregistré dans la parole de Dieu, et en particulier de se faire attention, de faire attention pour les faux docteurs, pour les faux prophètes. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc, bien sûr, c'est Jésus. Donc, je dis simplement aujourd'hui que dans les médias, et en particulier sur Internet, il y a une abondance de mauvaises informations, de fausses instructions, des propos fantaisistes, des choses qui vous excitent. Waouh! Ouh! Eh bien non, ce n'était pas en fait vrai, ni réel. Et donc, je vous dis attention à vous, de ce que vous laissez entrer par les médias divers et Internet en particulier. Donc, je reviens dans Matthieu 9, 36. Jésus a vu la foule, il était ému de compassion, donc pour dire qu'il n'était pas content, il était triste pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, quelle est la réponse de Jésus? Il dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a beaucoup de besoins, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc, dans là, il nous engage. Il dit, priez, nous prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc l'idée, c'est que les ouvriers vont entrer dans le programme de Jésus, qui est l'évangélisation, la formation des disciples, le baptême des croyants et le regroupement des fidèles en petite bergerie, on dit église locale. OK? Verset 2, psaume 23 et verset 2. Il restaure mon âme. Oh, excuse-moi, est-ce que j'ai sauté un verset? Ah, oui, excuse-moi, verset 2, c'est les lunettes. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Donc, il me fait reposer. Donc, globalement, ça veut dire que Dieu connaît nos besoins. Il connaît nos limites et il s'occupe de nous. Reposer dans de verts pâturages, c'est que Dieu, il pourvoit les bonnes choses. Ce n'est pas Dieu qui nous donne les épines, etc. Ce n'est pas Dieu, ça. OK? Et il nous dirige près des eaux paisibles. Donc, ça donne un peu... On pense, bon, ça aurait pu être les eaux troublées, vous voyez, mais c'est les eaux paisibles, donc pour dire, c'est, on est en sécurité. C'est les bonnes choses, il connaît nos besoins, nos limites, on est en sécurité quand nous sommes avec notre berger. Donc, pourquoi aller s'écarter volontairement au lieu d'être avec le berger qui prend bien soin de nous? Verset 3, il restaure mon âme. Donc, cette idée de restaurer l'âme, il y a deux côtés là. Il y a la santé spirituelle, mais il y a aussi l'idée de ramener au troupeau. Puisque c'était l'habitude, enfin c'est l'habitude des brebis à prendre leur propre chemin, eh bien, de restaurer son âme, ça veut dire dans une certaine façon de traduire, il me ramène. Il me ramène où je devrais être, avec lui. Là, c'est un bon berger, et vous connaissez bien l'histoire que Jésus a dit. Il y a le 99, il y a un qui s'égare, eh bien, il laisse le 99 dans la bergerie, et il va chercher celui qui s'est égaré. Okay? Donc ça, c'est cette idée-là. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pouvez-vous imaginer que Dieu vous amène dans le mensonge ou dans la mauvaise voie? Dieu ne fait pas ça. Dieu, il dit, à cause de son nom, il nous amène dans le sentier de la justice. Il est juste. Il est amour. Il est vrai. Il ne peut pas changer. Donc, quand nous sommes avec lui, on est sur la bonne piste. Au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Donc, globalement, ce verset veut dire que Dieu est là pour nous protéger. Mais une partie de la protection, c'est que Dieu nous a donné sa parole pour apprendre et pour se préparer. Quand on lit dans Éphésiens chapitre 6 et verset 13, nous lisons « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ça veut dire que le mauvais jour va venir. Je ne sais pas quelle fréquence. Mais il y a toujours des mauvais jours. Ah ben non, les chrétiens, c'est que les roses, et c'est que le bonheur, c'est que la richesse, et la santé, et le bonheur. Eh ben non. Il dit dans le verset Éphésiens chapitre 6, verset 13, qu'il y a le mauvais jour qui arrive. C'est le jour que le diable vient vous tenter, quand il vient vous agresser. Et si vous étiez en train de marcher avec le Seigneur à ce moment-là, ben vous allez rester debout. Il veut que vous teniez ferme. Il vous prépare d'avance. Mais, si vous vous écartez, si vous allez par là, si vous écoutez n'importe quoi, eh bien, quand le mauvais jeu arrive, vous ne serez pas prêt. Vous serez déstabilisé, vous serez peut-être tout torturé dans l'esprit. On ne veut pas ça. Donc, quand on est en route avec le Seigneur, tout va bien, quoi que soient les circonstances. Après, nous sommes au verset 5. Alors, donc jusqu'à là, on parlait des brebis. Maintenant, en plus d'image, il parle à l'humanité. OK? Verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Donc, j'ai réfléchi, j'ai dit, donc au début, on pense tout de suite un roi. On va oindre un roi. On va oindre le Christ. Mais il y a dans les évangiles, quand Jésus est venu pour un repas, et il dit, je pense qu'il s'appelait Simon, il dit, mais Simon, quand je suis entré, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu ne m'as pas moins la tête. Tu m'as laissé entrer comme ça, et tu m'as laissé tranquille à côté, comme ça. Donc c'était l'habitude. Quand on a un repas, un festin, eh bien on traite correctement les invités. Hein? Et c'est ça qu'on voit ici. Donc, il veut dire, le croyant est bien reçu par Dieu. Le croyant est honoré par le Seigneur. Et il est satisfait jusqu'au débordement. Ma coupe déborde. Donc, c'est pas, ben, le Seigneur m'a donné une goutte. Ou il a rempli mon verre. Mais il a rempli le verre et puis il n'a pas arrêté. Ça déborde.
de bénédiction. Et puis le verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Donc il dit que, donc j'ai déjà dit que le dernier mot ici, c'est pas la fin de ma vie ou la fin de mes jours, c'est pour toujours et toujours. Mais la première partie du verset, il dit que le bonheur et la grâce sont avec moi pour toute ma vie, depuis le moment que je me suis converti à Jésus. Jusqu'au dernier jour, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Parce que je suis avec le Seigneur. Et quand je vais mourir, eh bien Jésus a dit que à l'autre côté, il est déjà allé préparer dans la maison de son Père un lieu céleste pour nous. Et c'est ça la seconde partie de ce verset. Ça parle de notre éternité dans la présence de Dieu. Okay? Donc le bonheur, la bénédiction pendant notre vie, mais aussi la bénédiction éternelle dans la maison céleste. J'espère que le psaume 23 est pour vous une bénédiction, un encouragement. Je voudrais tourner maintenant vers le sujet du repas du Seigneur. Donc on se prépare dans notre esprit. On se pose des questions. Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis un bon brebis? Est-ce que je suis un bon brebis? Est-ce que je marche avec le Seigneur? OK? Et j'espère que c'est vrai dans votre vie. Je voudrais lire dans Jean chapitre 10. Je poursuis un peu ce thème, le bon berger. OK? Jean chapitre 10. Et on a le verset 11. Et c'est là, Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Mais il va au-delà de ça. Il dit, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Il donne sa vie pour ses brebis. Et au verset 14, nous lisons, « Je suis le bon berger. » Donc, c'est la seconde fois qu'il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, verset 15, comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. » Il parle de sa crucifixion qui va arriver dans un certain temps exprès. Mais je trouve intéressant, dans la suite, au verset 16, on va le lire. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis. Donc, dans le verset 15, etc., il parle d'Israël. Il dit, il y a plein de monde que je veux sauver parmi les Juifs. Mais, il dit, au verset 16, il entre dans cette idée de l'évangélisation mondiale. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie ici en Israël. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc même quand Jésus se donne pour le peuple d'Israël en premier, il prévoit déjà de se donner en sacrifice pour le péché du monde entier. Déjà et toujours dans l'esprit de Jésus, c'est l'évangélisation mondiale. Donc, on va retourner dans Ésaïe maintenant. Encore un texte concernant les brebis. Ésaïe, chapitre 53. Et là, on va lire versets 6, 7 et 10. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Voilà. Ça, c'est nous. Et on a cette habitude dans notre nature humaine. Chacun suivait sa propre voie. Et voilà ce que Dieu a fait. L'Éternel a fait retomber sur lui, sur son Christ, l'iniquité de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un año. Donc un año, un autre mot, brebis. Comme un brebis qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Donc on a dans cette image le bon berger qui est devenu une brebis. Dieu qui s'est fait homme pour porter les péchés du monde entier. Et je vais sauter au verset 10. Il a plu à l'Éternel, donc il a plu au Père, l'Éternel. Donc l'Éternel, je vous ai dit tout à l'heure, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu. Il a pris à l'Éternel de le briser, le Christ, le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il revient à l'évangélisation du monde. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça veut dire que le Christ mort et en crucifixion et enterré va ressusciter. Et oui, il n'a pas d'enfant, mais il a plein de convertis. C'est ça que cela veut dire. Et l'œuvre de l'Éternel, donc Jésus a prié et demande, enfin, il nous a engagé à prier pour cette œuvre dans Matthieu chapitre 9. Il dit que ça va prospérer entre les mains du Seigneur Jésus. Donc, on va partager le repas du Seigneur. Donc, vous qui sont croyants dans Jésus-Christ, vous êtes baptisés par immersion et vous vous considérez vivre une vie chrétienne normale. Je vous demande à vous lever pour participer dans le repas du Seigneur. Et donc, Médic, après le baptême, tu seras bienvenu aussi, n'est-ce pas? Hein? Donc, ce pain-là, ça représente cet agneau, le corps humain que Dieu s'est fait, Jésus-Christ, qui est mort sur cette croix. Le corps, le pain, ça nous fait rappeler que Dieu a pris un corps humain afin de pouvoir mourir à la place de chacun d'entre nous. Donc on a pris le pain et on le mange en pensant au Seigneur Jésus. Alors la coupe, tu peux me passer une coupe? Merci. Donc cette coupe nous rappelle le prix. Dieu a préparé un corps, mais il fallait payer le prix. Jésus ne pouvait pas, vous vous souvenez, il a prêché dans la synagogue, il a prêché, il a lu un tout petit texte, une prophétie, dans la synagogue à Nazareth, et après avoir lu cet texte est dit, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie dans votre entendement. Après, les gens voulaient le jeter par la falaise. Il ne fallait, il pouvait pas que le Christ meure autrement que sur cette croix en versant son sang comme un agneau sacrifié. Il versait son sang et c'est pour cela que Dieu a accompli l'évangile exactement comme il avait prophétisé tout à travers les millénaires. Donc, on veut penser à notre agneau de Dieu sacrifié pour ôter nos péchés quand on boit cette coupe. Seigneur Jésus, merci encore parce que nous savons que ça t'a tout coûté pour nous sauver. Tu as versé son sang, ton sang. Et Seigneur, nous apprécions tellement le verset que tu as mis dans ta parole. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est vrai, Seigneur, comme des brebis qui s'égarent. Nous avons dans notre humanité cette habitude de s'éloigner de ta volonté, de commettre des péchés, de parler mal. Mais Seigneur, nous te remercions que constamment tu interviennes pour nous purifier de tout péché. Nous voulons te remercier, Seigneur, en pensant à toi aujourd'hui, en ton nom. Amen. Donc je voudrais vous lire dans Hébreux, chapitre 13, et après on va chanter numéro 6, chanter numéro 6 dans le grand cahier, dans le grand cantique. Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, et verset 20, qui résume un petit peu toutes ces choses. Nous lisons que le Dieu de paix, donc en parlant de la Trinité, mais en particulier du Père Céleste, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, donc le grand berger, c'est Jésus, par le sang d'une alliance éternelle, donc la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, si vous voulez, et donc il spécifie qui est cette berger, grand berger des brebis, donc notre Seigneur Jésus, que Dieu vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. OK?